Cette portion de la parole de Dieu est enregistrée et distribuée par l'Église, grâce et vérité. Jésus promet à ses disciples, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Nous prions que vous soyez bénis et rendus libres par notre Seigneur Jésus-Christ au moyen de ce message. Bonne écoute!
Relax, dans la paix du Seigneur, dans la méditation des chants. Excellent, c'est une bonne, un bon état d'âme à être. Ce matin, on va continuer dans notre, on peut mettre la première image, on va continuer dans notre étude de 1 Samuel, pas qu'on a commencé une série pour des semaines et des semaines, mais j'ai bien aimé le passage de la semaine dernière, on se souvient avec... David, et dans notre passage, on avait Samuel qui était le prophète de l'Éternel qui, lui, venait pour oindre David. Il venait pour oindre David, c'était pour choisir le prochain roi. Mais David, lui, il était dans lequel rang comme roi? Est-ce qu'en pensant un petit peu comme ça, David, c'était le... Premier, deuxième, troisième, quatrième. Le deuxième roi. Et quel était le premier roi? Qui était le premier roi? Saül, exactement. Puis, avant Saül, c'était qui était roi? Il n'y en avait pas de roi humain. Excellent. Et, excellent aussi, l'Éternel, Dieu lui-même, était leur roi. Et on veut revenir à ce moment. On va aller dans plusieurs passages, chapitre 8 à 12. On va aller voir un petit peu. On va se promener pas mal. N'ayez pas peur, vous avez vos bibles, vous pouvez vous aider. Et sinon, on va aller à l'écran, il va y avoir plusieurs des versets. Mais déjà, vous pouvez aller faire comme moi dans 1 Samuel, dans le coin du chapitre 8. C'est à partir du chapitre 8 que se passe un événement extrêmement important et marquant dans l'histoire du peuple d'Israël. Le passage de la théocratie à la monarchie. Donc, vous dites, c'est quoi tous ces mots-là qui finissent en « i » La théocratie, c'est quand Dieu règne sur son peuple. C'est lui qui règne. Et la monarchie, un peu comme en Angleterre, ils ont une monarchie. C'est la reine qui règne sur le peuple, quoique il y a des présidents et des premiers ministres puis tout qui fonctionnent. Mais la monarchie, c'est quand une personne, et dans ce temps-là, c'était un homme, qui régnait sur le peuple. J'ai dit que c'était un événement important, oui, mais c'était pas grandiose. Comme on dit, là, c'était loin d'être glorieux. On va voir que ce changement-là n'était pas sans conséquences et surtout que ce n'était pas juste un simple changement de fonctionnement, de procédure, une amélioration. C'était carrément un rejet de l'Éternel. Et ça va être le thème principal de ce matin. Est-ce qu'on peut rejeter l'Éternel comme roi? Mais nous aussi, comme chrétiens, on peut en arriver peut-être d'une façon plus subtile, plus douce, c'est insidieux, ça se passe tranquillement. On peut en arriver, nous aussi, à rejeter Jésus comme notre roi. Excellent. On veut se mettre un peu dans le contexte, un peu de quelques leçons d'histoire. Tout commence avec Samuel. Et on se souvient, première ligne, de Anne, la mère de Samuel, qu'est-ce que a fait Anne de marquant dans l'histoire, hein, chapitre 2, 1 Samuel? On se souvient qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant et qu'à chaque année, quand elle venait au temple, dans la maison de l'Éternel, dans la prière, elle répandait son âme devant Dieu en train de pleurer, en train de demander à Dieu de lui donner un enfant. Et elle a fait ce vœu-là et elle a dit, « Si tu me donnes un fils, je le consacrerai à l'Éternel. » Et de cette prière-là est né Samuel, hein, je pense Samuel qui veut dire « Dieu m'a donné un fils ». Et c'est pour ça que Samuel a été élevé par Élie, qui était le souverain sacrificateur. Et à la mort d'Élie, Samuel devint juge et prophète. Et si on pense un peu à l'origine, on retourne un petit peu plus loin, l'origine du peuple d'Israël quand ils ont été 430 ans en Égypte, Moïse est venu. Moïse a délivré le peuple d'Israël, il l'a fait sortir en traversant la mer Rouge, à sec, les flots de la mer qui se sont séparés. Et là, ils ont été pendant 40 ans dans le désert. Donc, dès son origine, dès sa formation, le peuple d'Israël a été dirigé par Moïse, 40 ans, et ensuite, il y a eu Josué pendant 40 ans aussi, mais après cela, après ce temps de transition et de formation, ce fut toujours des juges qui agirent comme les leaders spirituels pour enseigner le peuple, pour rendre des jugements et surtout pour consulter l'Éternel. Et de ce nombre, des juges bien connus par leur histoire marquante, on a Gédéon avec la toison et on a aussi Samson, hein, qui a détruit le temple des Philistins. C'était des juges et des libérateurs. Et ce mode de fonctionnement faisait très bien l'affaire. Ça fonctionnait très bien. Il permettait au peuple d'avoir cette relation intime et directe avec Dieu. Et on en a un exemple avec la vie de Samuel. Si on va au chapitre 7, verset 3, je vous le lis. Samuel dit à toute la maison d'Israël, « Si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez de milieu de vous les dieux étrangers, dirigez vos cœurs vers l'Éternel et servez-le lui seul, et il vous délivrera de la main des Philistins. » Donc, c'était direct, c'était un petit peu indirect dans le sens qu'on passait par par un prophète, on passait par le juge qui était Samuel. Mais il y avait quand même un lien direct. C'était une personne digne de mention, le juge digne de confiance. Et le rôle, c'était de diriger le peuple vers Dieu, vers l'Éternel, l'amener à la repentance. Et il est dit que Samuel, au verset 6 et 8, les enseignait dans les sentiers de la justice. Il priait pour eux. Quand il s'éloignait un peu, Dieu envoyait un message à Samuel. Le juge était prophète, un intermédiaire. Il essayait d'être le plus effacé possible. Ce n'était pas ses idées qu'il donnait. Et il voulait toujours amener le peuple avec cette relation avec Dieu. Prochaine image. Ah, tiens. Excellent. On va lire les versets 1 à 3. Lorsque Samuel devint vieux, il établit ses fils juges sur Israël. Son fils premier-né se nommait Joël et le second Abija. Ils étaient juges à Beersheba. Les fils de Samuel ne marchèrent point sur ses traces. Ils se livraient à la cupidité, recevaient des présents et violaient la justice. Le problème, c'est que Samuel commence à être vieux, puis que l'heure de la retraite semblait déjà venue. Petite parenthèse, quand Saül avait déjà fait un 20-25 ans de règne, qui on voit qui est envoyé pour choisir David, c'est qui? Ce même bon vieux Samuel qui faisait des années supplémentaires dans sa retraite. Donc, c'est pour dire, des fois, on se sert des prétextes en disant, « Oh, lui, il est plus bon, et c'est fini, là, faisons un changement. » Samuel a été là encore entre 20 et 30 ans après ce qu'on lit au chapitre 8. Samuel, dans son rôle de juge, a été sans reproche, exemplaire. Et le peuple, au chapitre 12, lui rend ce témoignage-là que dans tout ce que tu as prononcé comme jugement, tu nous as toujours dit fidèlement ce que Dieu te disait. Tu n'as jamais eu égard à un pot de vin ou à user de tes jugements pour avoir ton avantage. Tu as été vraiment un homme droit. Et le seul problème, et c'était un petit peu hors de son contrôle, sa seule faiblesse fut que ses fils ne marchèrent pas dans ses traces. Peut-être que ce n'était pas une bonne chose de les nommer juges. Et ses fils étaient vraiment tout croches. Hein? On ne prendra pas le temps de le voir, mais si vous allez ailleurs dans la Bible, ils faisaient des choses bien pires que voler puis soudoyer. Donc, il y avait un problème. Versets 4 à 6. Établis un roi pour nous juger, comme chez toutes les nations. Le peuple a dit à Samuel, voici tu es vieux et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. Samuel vit avec déplaisir qu'il disait, donne-nous un roi pour nous juger. Et Samuel pria l'Éternel. Wow! Établis un roi pour nous juger comme chez toutes les nations. À première vue, cette demande peut ne pas sembler si mauvaise. Hein? Les anciens du peuple se sont réunis. Ils ont dit, il y a un besoin, il y a un problème d'ordre spirituel. Notre vieux Samuel, on ne sait pas combien de temps il va être là encore, puis ses fils. Donc, ce n'était pas seulement quelque chose pour faire une période de transition. Il demande un roi pour juger. Quelle est la fonction d'un juge? Juger? Quelle est la fonction d'un roi? Régner. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Il y avait un juge pour prononcer, pour diriger, pour intercéder auprès de Dieu. Mais le roi, c'était l'Éternel. C'était lui, leur Dieu, c'était lui, leur Messie, c'était lui, celui qui était là pour diriger, aimer, puis avoir cette relation intime avec son peuple. Une des expressions, hein, c'est comme chez toutes les nations. Est-ce que le désir d'être comme toutes les nations était bon? Non. Hein? Dieu avait enseigné lui-même d'établir des juges. Dans le Deutéronome, avant de prendre possession de la terre promise, Canaan, Dieu avait dit, voici, on va fonctionner comme ça. C'était à Dieu d'apporter un changement s'il le désirait. Et Samuel a vécu avec un grand déplaisir. Pourquoi? Hein? C'était pas parce que Samuel était offusqué d'un rejet de sa propre personne ou un rejet de ses fils. Samuel avait un cœur entier à l'Éternel, puis il se voyait comme un serviteur du peuple, comme un intermédiaire. Et Samuel va faire la bonne action, celle qui avait fait toute sa vie devant des situations, il a prié l'Éternel, il a prié Dieu. Et dans sa prière, on va connaître ce que Dieu pensait lui-même de la demande du peuple. On va lire les versets 7 à 9. C'est Dieu qui parle à Samuel, qui dit « Écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette afin que je ne règne plus sur eux. Ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait monter d'Égypte jusqu'à ce jour. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Écoute donc leur voix, mais donne-leur des avertissements et fais-leur connaître le droit du roi qui règnera sur eux. » Donc, Dieu confirme la pensée de Samuel. C'était mauvais, très mal de leur demande. C'était pas un rejet de Samuel, c'était un rejet de l'Éternel, leur roi, leur Dieu. Et le problème ici, c'est que le peuple se sert d'une excuse, une mauvaise raison pour rejeter leur Dieu, pour rejeter leur roi. Si le problème était les fils de Samuel, il aurait pu les remplacer par quelqu'un d'autre. Donc, le peuple se sert d'une fausse raison pour rejeter la royauté, la seigneurie de leur Dieu qu'ils avaient fait sortir du pays d'Égypte. Vous savez, l'application à nous aujourd'hui avec Jésus, elle est directe. Dieu voit nos cœurs, Dieu voit nos motivations profondes, les raisons de nos actions et Dieu ne se fait pas tromper par nos fausses raisons. Quand on prend des décisions pour faire une chose, faire une autre, et que certaines de nos décisions nous amènent à enlever, à diminuer l'impact que Jésus va avoir sur nous. Des fois, des décisions qu'on prend, ils nous amènent à négliger notre Dieu, à se mettre dans des situations où on va s'éloigner et de rejeter Jésus comme le Christ. On sait ce que ça veut dire, Christ. Christ, c'est en grec, et c'est le même mot que Messie, et c'est le mot pour « loin de l'Éternel ». Et pour nous, quand on dit Jésus-Christ, Jésus, ça veut dire « sauveur », et Christ, ça veut dire « roi ». Deux belles qualités de notre berger, de notre maître. Il est le sauveur et il est le roi. On veut qu'il ait cette emprise sur nos vies. Il a donné sa vie pour nous et nous, on veut répondre en disant « Jésus, t'es mon maître. Je suis une pauvre petite brebis spirituellement. J'ai besoin de ta houlette. J'ai besoin de ta direction. Je veux venir à toi puis je veux que tu sois mon maître. Je veux être ton disciple. » Il arrive toutes sortes de choses dans la vie chrétienne. Il arrive des bénédictions, des belles choses, mais il arrive des épreuves. Il y a des joies, il y a des tristesses. Il arrive des fois des situations qu'on ne comprend pas pourquoi ça arrive, qu'on devient confus. On se dit, Jésus, si tu m'aimes, puis je le sais que tu m'aimes, puis j'ai reçu ton amour, je l'ai goûté, mais pourquoi tu as permis ça? Pourquoi il m'arrive telle chose? Je pensais que parce que tu m'aimais, que j'étais ton disciple, que tu allais bénir ma vie, puis que tu allais empêcher que ces choses-là arrivent. Le fait d'avoir Jésus comme Seigneur, comme Maître, parfois même nous amène des soucis, nous amène des malheurs, dans le sens qu'on va subir peut-être de la persécution, on va souffrir un peu plus. On pense au psaume 73 que celui qui ne craint pas Dieu, il semble plus heureux, puis sa vie semble aller mieux que ceux qui sont les croyants qui mettent leur confiance en Dieu. il peut arriver que tout doucement, on rejette, insidieusement, sans trop s'en apercevoir, subtilement, on peut rejeter l'autorité de Jésus sur nous. Et il va être de moins en moins notre maître. C'est plus lui qui va diriger. On a besoin de se le rappeler comme croyant, comme enfant de Dieu. La souffrance et les épreuves font partie de la vie, mais ce ne sont pas des raisons légitimes pour rejeter Jésus comme Seigneur. On pourrait trouver bien des bonnes raisons, hein, qu'à nos yeux, ce ne seraient pas des excuses, c'est vraiment des très bonnes raisons pour s'éloigner. Mais on a besoin en même temps de comprendre que Dieu n'est pas la cause de nos malheurs. On vit dans un monde pécheur, on vit dans un monde où, oui, il y a la joie, oui, Jésus est là pour nous, mais Jésus n'a pas décidé que ça allait être le ciel avant la terre. Sur la terre, on ne vit pas le ciel. On vit sur la terre. Pour Jésus, il y a eu un ordre, souffrance et gloire. Et pour nous, c'est la même chose. Souffrance et la gloire qui va être suivie dans la présence de Dieu pour toujours. Faisons attention de ne pas être comme le peuple d'Israël qui se trouvait une bonne raison pour le rejeter. Au verset 8, hein, cette expression qu'on vient de lire en parlant du peuple d'Israël, ils agissent comme toujours. Ils m'ont toujours abandonné pour servir d'autres dieux. C'était et c'est encore la façon de faire d'Israël. Une tendance dans leur cœur, hein, c'est comme plus fort qu'eux autres. Quand ils vont bien, ils marchent avec Dieu, ils font des pas, ils vivent comme ça 20-30 ans, puis tout à coup, là, ils ont une démangeaison qui revient, là, une tendance naturelle, c'est de rejeter leur Dieu. Un premier événement, on se souvient au tout début, 430 ans à être dans l'oppression. Et on sait que l'oppression en Égypte a été beaucoup plus grande vers la fin. Et là, le peuple est délivré. Dieu met sa main. Ils se retrouvent au désert. Dieu leur donne à manger. Dieu leur donne à boire. Ils boivent au rocher qui était Christ. Et aussitôt que Moïse monte sur la montagne, qu'est-ce que le peuple trouve bon à faire? Hein, ils ont dit, où est ce Moïse? Où est l'Éternel qui nous a fait sortir du pays d'Égypte? Et justement, ils ont dit, amenez tous vos objets d'or, on va s'en faire un Dieu. Ça leur a pas pris quelques semaines, quelques mois qu'ils ont dit, voici le Dieu qui nous a fait sortir du pays d'Égypte. C'était un animal en or, hein? un bœuf, là, de dire, c'est ça notre Dieu, rejeter Dieu. Et ça a été ça pendant 1500 ans jusqu'à la venue de Jésus. Et quand on parle comme peuple d'Israël, comme nation, ils ont eu la même réponse, ils ont eu la même réaction du temps de Jésus. Pendant 3 ans, Jésus a enseigné, s'est présenté, a dit, « Je suis le Messie. Hein? » Le Messie, quand il va venir, va-t-il faire plus de miracles que moi j'en fais? Est-ce qu'il va pas enseigner l'amour de Dieu, la vérité avec justesse comme le fait? Et c'est le peuple d'Israël qui a, les dirigeants, les pharisiens et tout le peuple a suivi. C'est eux qui ont dit, on veut que cet homme-là meure. Ils en ont fait la demande à Pilate, et Pilate qui était un dirigeant très élevé au niveau des Romains qui occupaient le territoire d'Israël. Pilate a dit, écoutez, est-ce que je vais crucifier votre roi? Et qu'est-ce que le peuple, qu'est-ce que les dirigeants ont répondu? Nous n'avons de roi que César, l'ennemi qui les opprime, puis qui les contrôle, puis qui les empêche un peu d'exercer leur foi, leur croyance. L'empereur, ils leur disent, c'est lui notre Dieu, c'est lui notre roi, c'est lui qu'on veut servir, et celui que le Père envoie, le Fils, lui, on veut le rejeter. Un rejet du Dieu véritable. Ce qui est merveilleux et qui peut vraiment toucher notre cœur, c'est de voir dans Zacharie 12:10, à la fin des temps, à la fin des temps troublants de sur la terre, Israël qui va être accablé de toutes parts. Et là, Jésus qui va revenir. Et quand Jésus va revenir du haut des cieux, qu'est-ce que le peuple d'Israël va faire? Il va se repentir. Hein? Quel beau passage! Ils verront celui qu'ils ont percé. Ils vont voir Jésus qui vient du haut des cieux et ils pleureront sur lui, hein? Comme on pleure sur un premier-né. Et là, ça va être la conversion massive d'Israël qui, finalement, va soumettre son cœur à son Messie, à son Christ, à son roi. Cette tendance chez Israël, cette tendance chez l'être humain. Versets 10 à 18, on ne lira pas tout le passage, mais l'Éternel leur dit, voici, Dieu m'envoie, puis je veux vous avertir, puis je veux que ce soit clair dans le contrat, il n'y a pas de petite clause cachée, là. Voici ce dans quoi vous vous engagez en voulant avoir un roi humain. Et l'Éternel a fait par exprès, hein, le premier roi qui a choisi lui-même, il leur a donné un pas bon, un qui allait bouleverser le peuple. Et en gros, quand on lit toutes les caractéristiques, hein, il est dit que ce roi-là, ce qu'il va faire, il va prendre vos fils pour les embaucher dans son armée. Hey, c'est dangereux d'aller à la guerre constamment. Ben, il dit là, lui, il va se bâtir une grosse armée, puis vos fils qui ne travailleront pas dans vos champs, dans vos maisons, là, c'est lui qui va les avoir. Ensuite, il va les prendre pour travailler dans ses champs à lui. Il va prendre vos filles pour les soins domestiques, pour la cuisine. Il va prendre la meilleure partie de vos champs. Il y avait déjà des offrandes qu'il faisait à l'Éternel, mais là, ça va doubler, ça va tripler. Il va prendre en plus de la dîme des revenus sur toutes vos moissons. Et le résultat, au verset 18, « Alors vous crierez contre votre roi que vous avez choisi, mais l'Éternel ne vous exaucera pas. » C'est un avertissement. Mais eux, ils sont endurcis dans leur position. Ils disent, « Non, c'est correct, on garde notre idée puis on le veut toujours. » Le peuple refusa d'écouter la voix de Samuel. « Non, dirent-ils, mais il y aura un roi sur nous, et nous aussi nous serons comme toutes les nations. Notre roi nous jugera, et il marchera à notre tête, et conduira nos guerres. » Et l'Éternel dit à Samuel, « Écoute leur voix, et établis un roi sur eux. » Incroyable. Au chapitre 10, verset 19, l'idée est complétée. Aujourd'hui, vous rejetez votre Dieu qui vous a délivré de tous vos maux et de toutes vos souffrances. Et vous lui dites, établis un roi sur nous. À ce moment-ci, il était encore possible de changer d'idée. C'était possible de se repentir, de dire, écoute, on a une idée. qui était très mauvaise, notre cœur est manifesté, on voit ce qu'on a fait. Demande à Dieu, Samuel, si on peut changer d'idée. Là, on n'a pas encore signé dans le bas du contrat. Là. Non, on recule parce que c'est très mauvais. Puis merci de nous avoir avertis. Mais le peuple dit non, on veut, on va l'avoir. Puis c'est ça qu'on va faire. Ils vont des champs en disant, on ne veut pas le voir, on veut l'avoir. Mais ici, le peuple disait, on veut l'avoir et on veut le voir. Ils l'ont eu et ils l'ont vu. Et il y a cet aspect très, très difficile dans la vie chrétienne de marcher par la foi. Oui, on a tous vécu une expérience avec Jésus qui a été marquante, hein? Moi, c'était le 15 avril 1983 et je me souviens comment Jésus s'est révélé à moi, comment il a touché mon cœur, comment c'était clair, c'était palpable, c'était vivant. Et je me souviens de mes premiers pas de vie chrétienne. Donc, c'était, j'ai rien vu avec mes yeux, hein, puis il y a pas la main du Saint-Esprit qui est venu puis qui m'a touché, puis non, mais dans mon cœur, dans mon âme, dans mon esprit, c'était tellement réel et fort. Mais on marche toujours par la foi. L'Éternel a toujours été fidèle pour délivrer Israël en situation de détresse, mais le peuple se détournait de Dieu par la suite et il leur demande, hein? Dieu leur dit, « Cependant, l'Éternel, votre Dieu, était votre roi. » Et là, Samuel insiste, l'Éternel insiste, une dernière chance pour se repentir puis reculer de ce projet-là. Une fois qu'il est trop tard, toujours comme ça, hein? Une fois qu'on a signé, une fois qu'on a commis l'action, là on dit, « Oh! » Maintenant, je le vois, mais maintenant, il est trop tard. Attendez encore ici et voyez le prodige que l'Éternel va opérer sous vos yeux. Ne sommes-nous pas à la moisson des blés? J'invoquerai l'Éternel et il enverra du tonnerre et de la pluie, ce qui était impossible à avoir selon la saison. Sachez alors et voyez combien vous avez eu tort aux yeux de l'Éternel de demander pour vous un roi. Samuel invoqua l'Éternel et l'Éternel envoya ce même jour du tonnerre et de la pluie. Tout le peuple eut une grande crainte de l'Éternel et de Samuel. Et tout le peuple dit à Samuel, « Prie l'Éternel, ton Dieu, pour tes serviteurs, afin que nous ne mourions pas. Car nous avons ajouté à tous nos péchés le tort de demander pour nous un roi. » Le peuple a besoin d'un miracle pour le réveiller. Une grande crainte, ils ont peur de mourir. Et là, trop tard, mais au moins ils prennent conscience. Et au verset 21, il est dit que si vous continuez dans vos voies, vous allez aller après des choses de néant. Et c'était la même idée dans Jérémie 2:5. Hein? Dans Jérémie 2:5, ça dit, « Mais qu'est-ce que vous avez à reprocher à Dieu pour que vous détourniez de lui? Quelle iniquité avez-vous trouvée en Dieu? Pourquoi le rejeter? » Et Dieu dit qu'en faisant ça, vous allez aller après des choses de néant et d'être eux-mêmes que néant. La conséquence de s'éloigner de Dieu, de rejeter cette autorité bienveillante de Jésus sur nos vies. L'apôtre Pierre a bien résumé le vide et le non-sens d'abandonner notre Seigneur et Sauveur. Jésus lui a dit, puis aux disciples, « Vous aussi, voulez-vous vous en aller? » Hein? Plusieurs des disciples qui suivaient Jésus en Jean 6:66, ont décidé de le rejeter, de s'éloigner. Vous aussi, voulez-vous vous en aller? À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Pierre est en train d'enseigner que la vie sans Jésus, spécialement pour nous comme enfants de Dieu, c'est le néant. C'est d'essayer de trouver la vie en dehors de celui qui nous l'a donné. Il est vraiment normal et on veut pas minimiser la dureté, la difficulté de ce que l'on vit, de ce que vous pouvez vivre présentement. Il est normal de ressentir un besoin, un vide dans notre cœur, de l'insécurité, un malaise intérieur. Mais ces choses-là devraient être un appel, devraient être ce qui nous pousse à se tourner vers Jésus. Jésus est un roi, puis en même temps, c'est un berger. Jésus, c'est un maître, mais en même temps, c'est notre frère. Et Jésus, il est dit qu'il est doux et humble de cœur. On peut regarder les histoires de l'Ancien Testament, puis de dire, écoute, c'est comme si on est dans une autre époque. Hein? C'était rough dans ce temps-là. Tu sais, des fois, Samuel envers le peuple, puis ce que disait l'Éternel envers le peuple, on peut dire, waouh, tu sais, c'était pas facile, c'était rough, tu sais, puis c'était la révélation progressive. Dieu se révèle à son peuple Israël progressivement. Dieu se révèle à l'humanité, et c'est pour ça que quand arrive Jésus, il est la révélation parfaite de Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu. Jésus-Christ, celui qui était dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. Et avec Jésus, Moïse est venu avec quoi? Avec la loi. Jésus-Christ est venu, hein, Église, grâce et vérité. Jésus est venu avec la grâce et la vérité. Donc, en Jésus, autant les Israélites étaient responsables, puis ils devaient se tourner vers l'Éternel, autant pour nous. On est encouragé à venir à notre Dieu qui est doux et humble de cœur. Oui, un roi, mais qui veut régner avec bonté, avec douceur. Il nous attire par des cordages d'amour. Il est là, puis il veut notre cœur, mais il nous respecte. Il respecte chacun des êtres humains que si, malgré le travail du Saint-Esprit, malgré... Ce désir de Jésus de gagner toute personne, il nous respecte. D'avoir un tel Dieu, un tel roi, un tel maître devrait nous attirer à dire, oui Jésus, hey, je veux aller encore plus vers toi et surtout je ne veux pas m'éloigner de toi. On peut rejeter notre Seigneur en allant ailleurs qu'à lui pour nos besoins non comblés. Est-ce que ça nous arrive à un moment donné avec le temps de se tanner, de se fatiguer, de se confier en Jésus en marchant par la foi? Puis on a le goût un peu comme le peuple hein, de marcher un peu plus par la vue. Un des points du peuple d'Israël, c'est qu'il voulait être comme les autres nations. Et il voulait avoir un roi visible. C'est lui notre roi. Hein, Saül, on sait que quand ils l'ont sorti des bagages, il était en train de se cacher, puis l'Éternel, il a dit, celui que vous voulez, là, il est là, il est dans les bagages, là, allez le faire sortir, puis il dépassait d'une tête. Une confiance selon la chair, une confiance selon la vue, même pas sur des caractéristiques de dire, lui, est-ce qu'il aime l'Éternel? Est-ce que c'est un homme qui, un peu comme Samuel, qui est digne de notre confiance, qui va être un bon leader spirituel pour nous conduire vers l'Éternel. 2 Corinthiens 5, 7, hein, nous dit que nous marchons non par la vue, mais par la foi. On est en train de se donner notre vie pour les choses invisibles, non pas pour les choses visibles. On est en train de se donner pour les choses qui sont éternelles, pas celles qui vont durer peu de temps. Le peuple d'Israël, à l'approche des ennemis, voulait un roi physique, visible, qui allait marcher. Il voulait un roi comme toutes les autres nations. Ils voulaient mettre leur confiance en lui. Toute une leçon pour nous. Hein? Quand on est jeune chrétien, moi, je me suis fait dire une des premières choses dans mes cours, c'est « Mets pas ta confiance dans les hommes ou dans un homme parce que tu vas être déçu. » Puis on dit « Oui, oui, j'ai compris. » Puis quand ça nous arrive, là, on réalise « Ouais, ouais, là, je suis en train de l'apprendre. Je le savais pas avant. » Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme et qui prend la chair pour appui. Mais c'est dans notre nature de vouloir mettre notre confiance en quelqu'un. Ça peut être un pasteur réputé, un prédicateur reconnu mondialement, un leader charismatique, puis de dire « Hey, lui, là, lui, il va faire que ma vie chrétienne va aller mieux. Là, puis lui, il va être celui qui va faire une différence dans ma vie. » Mettre notre confiance en un homme, ça nous évite, ça nous empêche de se confier en Dieu, en Jésus. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'en tant qu'enfant de Dieu, on est devenu un royaume de sacrificateurs. Le peuple devait passer un peu par l'intermédiaire de Samuel, mais nous, on peut aller directement à Jésus, à notre Dieu. Le chemin a été ouvert. On peut venir dans sa présence pour être compris, pour être soutenu, entendu et répondu. On a un bel exemple de rejet du peuple de Dieu, de leur Dieu, l'Éternel. Et ça s'applique très bien au rejet spirituel qu'on peut avoir face à Jésus. Est-ce que Jésus est toujours mon maître, mon roi? Est-ce que Jésus a encore cette autorité que je lui donne sur ma vie? De dire, ma vie t'appartient, Seigneur. 1 Corinthiens 6, 19 à 20 nous dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Notre esprit appartient à Christ qui nous a rachetés à un grand prix. Il y a, puis il y aura toujours, en étant sur la terre, un combat dans notre cœur pour que Jésus occupe cette première place. Menons ce combat-là. Acceptons de le livrer. Spurgeon, un ancien prédicateur, aimait bien dire « Seigneur de tout ou pas Seigneur du tout ». Et c'était dans les années 1850, on peut pondérer un peu ça, mais c'est notre combat. Il était intransigeant dans ce temps-là. Hein? Spurgeon a écrit des choses qu'on dit « Oh, comment on va appliquer ça de nos jours ?» Mais l'essence est là. Bien qu'on ait une époque beaucoup plus compréhensive, on est moins tranchant que là, 50, 100 ans, 200 ans, il y a des réalités qui demeurent. Jésus, est-ce que tu règnes encore dans ma vie? Est-ce que je te donne cette autorité? Oui, sois mon roi. Oui, sois mon maître. Y arriver. êtes capable de mettre la prochaine image. Comment faire en sorte que Christ soit toujours notre roi? Comment vivre cette réalité-là? Premièrement, par sa parole, par son enseignement, par les encouragements qu'il nous donne. Et je vous donne, j'aurais pu donner des dizaines de versets, je vous en donne deux. En Jean 4, 34, hein, Jésus leur dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Ça, c'est Jésus envers son Père. Et nous, face à Jésus, on veut dire la même chose. Face à toi, Jésus, face à mon Père céleste, je veux que faire ta volonté, accomplir ton œuvre, ce soit ça qui me passionne, ça qui soit un feu dans ma vie. Oui, en manœuvrant à travers toutes les exigences de la vie moderne et en manœuvrant aussi à travers toutes les opportunités d'avoir une vie agréable, loisir, facilité financière, ça peut nous amener à dire la passion, là, ce qui est ma nourriture, ce qui est viscéral en dedans de moi, là, je ne peux pas m'empêcher. Ça peut être amené par bien d'autres passions. On a besoin de s'assurer que Jésus demeure une de ces passions-là. Deuxième verset, Jean 15, 5. « Je suis le cep, vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » On veut dépendre de Jésus. On veut réaliser qu'on ne peut pas se permettre de mettre Jésus de côté, de ne plus se tourner vers lui. Oui, si vous n'avez pas fait votre culte un temps avec Dieu depuis 3-4 jours, le but, ce n'est pas de vous culpabiliser, de dire hey, je vais mourir ou je m'éloigne. Non. Mais que notre cœur se tourne toujours de dire Jésus, j'ai besoin de toi. Jésus, je veux que tu sois l'objet de mes pensées. Jésus, je veux offrir mon corps comme un sacrifice vivant, sain et agréable à Dieu. Je veux te donner ma vie. Je veux que ma vie t'appartienne. Je veux que tu agisses en moi. On veut fixer les yeux sur Jésus pour recevoir ses directives. Et vous savez, rejeter Jésus à notre époque, c'est très, très, très subtil. Tellement de choses qui peuvent détrôner Jésus puis prendre le trône de notre cœur. Tellement facile de reprendre le contrôle. On a besoin d'examiner notre cœur, hein? Considérez attentivement vos voies. Qu'est-ce qui nous donne le plus de plaisir présentement dans notre vie? Est-ce qu'on a plus d'affection pour les choses matérielles, plus d'affection et plus de soucis par tout ce qui nous entoure, ou on est capable de faire de l'espace, de dire, écoute, merci Seigneur parce que tu me donnes toutes choses avec abondance pour qu'on en jouisse, qu'on en profite. Oui, tu es bon, notre Dieu. Mais on ne veut pas laisser ces choses-là prendre ta place. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Et on veut appliquer ça. On veut dire, Jésus, je veux que tu sois mon roi. Dans le passage, hein, ils ont eu un petit coup de tonnerre quand c'était impossible d'avoir un petit coup de tonnerre. Et quand je préparais le message, je disais à Jésus, « Jésus, envoie-moi un petit coup de tonnerre, là. Puis, tu sais, avec Jésus, là, il ne me cassera pas une jambe ou j'aurai pas un accident d'auto, là, pour dire, regarde, là, tu m'as demandé d'agir, je vais te punir. » Non, notre Dieu n'est pas comme ça. Mais un petit coup de tonnerre, un petit clin d'œil de Jésus, qui se manifeste et qui dit, « Oui, j'aime ça, que tu veuilles te rapprocher de moi. Oui, j'aime ça que tu veuilles me redonner la première place malgré toute la compétition qu'il peut avoir avec ta vie qui est remplie de toutes sortes de choses. On a besoin de prendre des décisions. C'est un peu comme la mauvaise herbe sur un terrain, dans un jardin, dans notre gazon. Si on laisse aller puis on ne fait pas d'action, il va y avoir un envahissement. Et c'est facile de ne rien faire, de ne pas rejeter Jésus volontairement, mais de juste laisser les choses envahir. Prenons le temps de nous examiner devant Dieu. Demandons à Dieu de sonder notre cœur. Jésus, est-ce que tu es toujours Seigneur? Montre-moi là, puis je te demande que tu redeviennes le Seigneur de ma vie. On va terminer. Seigneur Jésus, merci pour cette histoire, merci pour la façon que tu as agi, intervenu avec ton peuple. Merci pour Samuel, cet homme intègre, cet homme qui t'a toujours aimé, t'a toujours mis en premier. Seigneur Jésus, apprends-nous les bonnes leçons. Jésus, on ne veut pas te rejeter. On ne veut pas te faire glisser tout doucement hors du trône de notre cœur. On ne veut pas s'habituer à une vie où ta voix ne porte plus. Seigneur Jésus, tu vois notre cœur, tu vois notre besoin. Envoie-nous un coup de tonnerre de ta part. Fais-nous un clin d'œil. Parle-nous à notre cœur. On te le demande, Jésus, on veut que tu demeures le Seigneur, et si on s'est éloigné, on veut que tu reprennes la place qui te revient, celle où tu règnes sur notre vie. Seigneur Jésus, on veut tellement être reconnaissant de ta bonté, de ta douceur, de ta patience envers nous. Il y a tellement de fois que tu pourrais t'irriter, te fâcher et nous envoyer des malheurs pour nous faire comprendre. Mais Seigneur, même si tu peux le faire, la plupart du temps, ce n'est pas comme ça que tu le fais. Tu veux nous gagner par ton amour, par la patience. Et Seigneur Jésus, parle à notre cœur. Et c'est nous qui voulons aller vers toi. On veut s'approcher de toi afin que tu t'approches de nous. Oui, Seigneur Jésus, merci d'être Jésus-Christ, loin de l'Éternel, le roi qui règne sur nos vies. Amen.